Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires,
snobles. Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu, 102.2 FM et de partout sur le net. Aujourd'hui, nous continuons et terminons la lecture du texte d'Édouard Louis, Qui a tué mon père. Alors en studio, je suis accompagnée de Lindsay, Jean et Amandine. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et donc petit récap de la première partie, précédemment dans Qui a tué mon père. Donc, par une succession de souvenirs, Édouard Louis, l'auteur, oui, parce que c'est un récit autobiographique, l'auteur donc nous parle de son père, un père aimant mais dur, un père silencieux mais capable de gueuler quand il fallait, un père qui a essayé de fuir une vie déjà toute dessinée pour lui et qui est finalement rentré à l'usine comme son père et grand-père avant lui, un père qui n'a par contre pas voulu reproduire la violence que faisait subir son père, un père, enfin, qui est un vrai mec, 100% de masculinité, cachant pourtant aussi une sensibilité ou encore un attrait pour les chansons, la danse ou l'opéra. Mais ça, ça ne se dit pas. Et en parallèle à ses souvenirs, Édouard nous raconte comment il a été surpris de retrouver son père après plusieurs années d'absence. Il peine à le reconnaître tant son corps s'est transformé, s'est cassé, par des années de travail à l'usine, par les contraintes économiques et sociales, et parce que les lois lui ont imposé. Et c'est justement là où il va en venir, Édouard Louis. Parce que les politiques ne le diront jamais aussi directement.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité.
Pour la précarité. Ouais, c'est ça. Comment la politique, les mesures, les lois qui sont prises donc, s'articulent avec la vie quotidienne de ceux et celles qui n'ont pas de protection contre ces effets. Comment elle impacte directement les classes populaires. Avant de commencer, bref point bio de l'auteur. Donc, il est né à Amiens, enfance dans la Somme. Il fait ses études à l'ENS de Paris, puis à l'école des hautes études en sciences sociales. Et il a déjà publié « En finir avec Eddie Bellegueule », « Histoire de la violence » et donc « Qui a tué mon père » que nous vous proposons aujourd'hui. Belle écoute à vous. « Qui a tué mon père » par Édouard Louis. Partie 2.
Father, mother, always you wrestle inside me. Always you will.
Someday we'll fall down and weep. And we'll understand it all. All things.
Je n'étais pas innocent. En 2001, mon grand frère avait essayé de le tuer. Lui, mon père.
C'était quelques jours après les attentats du World Trade Center. Et c'est à cause de ça que je me souviens de la date à laquelle c'est arrivé. Ou plutôt que je ne peux pas, que je n'arrive pas à l'oublier.
J'avais regardé avec mon grand frère les tours jumelles s'enflammer, imploser, puis s'effondrer. Mon frère vidait une bouteille de whisky devant la télé pour noyer son chagrin. Et il pleurait. Il disait, je m'en souviens.
Maintenant, ils vont tous nous tuer, putain.
C'est ce qu'il disait.
Ils vont tous nous tuer. C'est le début de la guerre, je te préviens, prépare-toi. Parce que là, je te le dis, on va mourir, tous.
Il me prévenait.
La prochaine bombe qu'ils vont jeter quelque part, ce sera sur nous, les Français. Et là, c'est sûr, je te le dis, on va tous y passer.
Pendant longtemps, j'ai cru que c'était mon père qui avait prononcé ces phrases. Mais je me souviens maintenant, Ce n'était pas lui, c'était mon frère.
Moi, j'avais 9 ans et je pleurais aussi, comme un enfant qui pleure quand il voit sa famille pleurer, sans vraiment comprendre, pleurant justement pour être de cette incompréhension, de ce vide, pleurant parce que j'avais déjà peur de la mort et parce que j'étais trop jeune pour me rendre compte que les mots de mon frère n'étaient que l'expression de ses pulsions violentes et paranoïaques, les mots d'un homme que j'allais apprendre à détester 2 ou 3 ans plus tard. Une semaine après,
je continue. Une semaine après, sans aucun lien avec les attentats à part la proximité des dates qui me permet de situer la tentative de meurtre dans le temps,
mon grand frère, donc, en plein milieu du dîner, a attrapé mon père par le cou devant le reste de la famille et il a commencé à lui claquer le dos contre le mur de la cuisine. Il le tuait. Ce n'était pas la première fois qu'ils se battaient tous les deux. Mon père hurlait, il le suppliait. Je n'avais jamais vu mon père supplier quelqu'un. Et mon grand frère criait.
« Je vais te buter, fils de pute. Je vais te buter. »
Toujours les mêmes mots, les mêmes expressions. Pendant que ma mère et Déborah, une fille que mon frère venait de rencontrer, essayaient de me couvrir. Je revois ma mère. Elle jetait des verres sur mon grand frère pour l'arrêter, mais elle ratait à chaque fois sa cible et les verres se fracassaient sur le sol. Elle aussi, elle hurlait.
« Oh, bordel! Vous allez quand même pas vous entretuer? Calmez-vous !»
Elle braillait. Je ne sais pas comment le dire. Ses poumonnets.
« Il va tuer son père. Il va tuer son propre père. »
Elle me soufflait à l'oreille.
« Regarde pas, mon bébé. Ne regarde pas. Maman est là. Regarde pas. »
Mais je voulais regarder. Parce que c'était moi qui avais provoqué cette dispute entre mon père et mon frère. Je l'avais voulu. C'était une vengeance. L'histoire de ma vengeance commence un matin, très tôt. Il faut imaginer la scène. Je bois un chocolat chaud dans la cuisine, assis à côté de ma mère et de mon grand frère. Ils viennent de se réveiller et ils fument en regardant la télévision. Ils sont levés depuis 20 minutes, mais ils ont déjà fumé 3 ou 4 cigarettes chacun. Et la pièce est comme saturée par la fumée épaisse et opaque. Je tousse. Ma mère et mon frère rient devant la télévision. Des rires fatigués, caverneux. Et ils fument encore. Mon père et mes sœurs ne sont pas là. Je préviens ma mère. Je dois aller voir un ami dans le village pour l'aider à réparer son vélo. Elle hoche la tête sans quitter la télé des yeux. Je m'habille sans faire de bruit. Je sors de la maison. J'entends son rire encore une fois. Je claque la porte et j'avance dans le froid, au milieu des briques rouges et grises, dans l'odeur du fumier et du brouillard. Et puis, je ne sais plus quoi, mais je réalise que j'ai oublié quelque chose dans ma chambre. Alors je fais demi-tour. Quand j'entre dans la maison, sans frapper à la porte, je distingue, là, près du poêle qui brûle, les silhouettes de ma mère et celles de mon frère enveloppées dans la fumée, plus rapprochées qu'avant mon départ. Et surtout, je vois ce qui se passe. Ma mère est en train de donner de l'argent à mon grand frère. Elle profite de l'obscurité et de l'absence des autres pour lui donner de l'argent. Et moi, je sais que mon père a interdit à ma mère de le faire. Il lui avait ordonné de ne plus jamais donner d'argent à mon frère, plus jamais. Parce qu'il sait qu'avec l'argent, mon frère achètera de l'alcool et de la drogue, et qu'une fois saoul et drogué, il ira taguer les supermarchés et les arrêts de bus, ou mettre le feu au gradin du stade du village. Il l'avait déjà fait plusieurs fois. Il avait risqué la prison, il aurait pu y être envoyé. Mon père avait dit à ma mère que je ne te reprenne plus à donner de l'argent à ce délinquant. Alors, quand ma mère voit que je la surprends, elle sursaute. Elle s'approche de moi, elle est furieuse, elle dit
« Tu n'as pas intérêt à raconter ça à ton père, sinon ça ira mal. »
Et puis elle hésite sur la stratégie à adopter, elle essaye autre chose, elle change de ton. Elle recommence avec la voix, comment dire, plus douce, plus implorante.
Ton frère a besoin d'argent pour manger au lycée, mais ton père, il ne veut pas comprendre ça. Sois gentil avec maman, ne le dis pas à papa. Tu sais comment il peut être con, ton père, des fois.
Alors j'acquiesce, Je ne dis rien. Je lui jure que je ne dirai rien. Ma mère commet l'erreur fatale 15 jours plus tard. Elle ne sait pas encore qu'avant la fin de la journée, elle le paiera, qu'elle souffrira. Ce matin-là, je suis seule avec elle. On ne parle pas. Je me prépare pour l'école et quand j'ouvre la porte pour sortir, elle me dit, sans vraie raison, entre deux bouffées de cigarettes.
C'était quelque chose qu'elle m'avait dit souvent, mais elle ne l'avait pas fait, aussi durement et aussi directement.
Pas encore. Elle me dit,
pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu te comportes toujours comme une fille? Dans le village, tout le monde dit que t'es un PD. Nous, on se tape la honte à cause de ça. Tout le monde se moque de toi. Je comprends pas pourquoi tu fais ça.
Je ne réponds pas. Je sors de la maison, je ferme la porte sans rien dire, et je ne sais pas pourquoi je ne pleure pas. Mais toute la journée ensuite a le goût des mots de ma mère. L'air a le goût de ses mots. La nourriture a le goût de la cendre. Pendant toute la journée, je ne pleure pas. Le soir même, je suis rentrée après l'école. Ma mère servait le repas et mon père allumait la télévision. Et puis, soudain, en plein milieu du repas, je crie. Je crie très vite et très fort en fermant les yeux. « Maman, elle donne de l'argent à Vincent. Elle continue de lui donner de l'argent. Je l'ai vu qu'elle lui en donnait l'autre jour. Et elle m'a dit de ne pas le dire. Elle m'a dit, surtout ne le raconte pas à ton père. Elle m'a demandé de te mentir. Et... » Mais mon père ne me laisse pas finir la phrase. Il ne me laisse pas aller jusqu'au bout. Il me coupe la parole. Il se tourne vers ma mère et lui demande si c'est vrai. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est quoi ce délire? Et il monte la voix. Il se lève et il serre les poings. Il regarde autour de lui, il ne sait pas quoi faire, pas encore. Et j'étais sûre que ce serait sa réaction. Je regarde vers ma mère. Je suis trop curieux. Je veux qu'elle souffre de m'avoir humiliée le matin. Je veux qu'elle souffre. Et je sais que provoquer une bagarre entre mon frère et mon père est le meilleur moyen de la faire souffrir. Quand mon regard croise le sien, elle me dit
« Toi, t'es vraiment une putain de petite pourriture. »
Elle n'essaye pas de mentir. On dirait qu'elle va vomir de dégoût. Je baisse la tête. Je commence à avoir honte de ce que je viens de faire, mais pour l'instant, le plaisir de la vengeance prend encore le dessus.
C'est plus tard qu'il ne me restera plus que la honte.
Mon père explose. Il ne peut plus s'arrêter. Il devient fou, comme ça, quand on lui ment. Il jette son verre de vin rouge qui se brise sur le sol. Il hurle. C'est moi qui commande dans cette maison. C'est quoi cette histoire de me cacher des trucs, bordel? Et il crie tellement fort que ma mère a peur. Même elle a peur. Alors que le reste du temps, les autres jours de sa vie, elle répète qu'elle n'aura jamais peur d'un homme. Surtout pas d'un homme. Qu'elle n'est pas comme les autres femmes. Elle me prend dans ses bras et elle cache mes sœurs derrière elle. Elle veut qu'il s'apaise.
Ça va aller, chérie. Je le ferai plus.
Mais il ne se calme pas. Je savais qu'il ne se calmerait pas. Il continue. Et ma mère s'énerve aussi. Elle crie.
Mais t'es complètement malade ou quoi? Je te préviens. Si tu blesses un seul de mes gosses avec un éclat de verre, moi, je t'égorge. Je te défonce.
Mon père met des coups de poing dans le mur. Et il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une famille comme ça? Entre l'autre, là...
C'est de moi qu'il parle.
Entre l'autre, là, en plus d'un alcoolique qui n'est pas foutu de faire autre chose que boire. 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 Regarde-le. Il pointe du doigt mon frère. Le raté. Et c'est là, quand le mot raté surgit, que mon grand frère se lève et qu'il saute sur mon père. Il le frappe pour le faire taire. Il claque le corps de mon père contre le mur de toute sa masse, de tout son poids, et puis les cris de douleur, les insultes, les cris de douleur. Mon père ne fait rien. Il ne veut pas frapper son fils. Il laisse faire. Je sentais les larmes tièdes de ma mère qui tombaient sur mon crâne. Je pensais, c'est bien fait pour elle. Bien fait pour elle. Elle continuait d'essayer de me cacher les yeux, mais je contemplais la scène entre ses doigts. Je regardais les taches de sang pourpre sur les pavés jaunes.
J'avais failli être celui qui allait te tuer.
Devant tous les événements, ma mère semblait être là, bouche ouverte.
Toi, tu n'étais pas là. Tu n'avais même pas la bouche ouverte, parce que tu avais perdu le luxe de l'étonnement et de l'épouvante. Plus rien n'était inattendu parce que tu n'attendais plus rien. Plus rien n'était violent puisque la violence, tu ne l'appelais pas violence, tu l'appelais la vie. Tu ne l'appelais pas, elle était là, elle était.
Ou 2005 peut-être. J'ai 12 ou 13 ans. Je marche avec ma meilleure amie Amélie dans les rues du village et nous trouvons un portable par terre, sur l'asphalte. Il traînait là. Amélie marchait et son pied avait trébuché dessus. Le téléphone avait glissé sur la route. Elle s'est penchée, elle l'a ramassé et nous avons décidé de le garder pour jouer avec, envoyer des messages aux garçons qu'Amélie rencontrait sur Internet. Moins de 2 jours après, la police t'a téléphoné pour te dire que j'avais volé un téléphone. Je trouvais l'accusation exagérée. On ne l'avait pas volé. Il était dans la rue, sur le bord de la route. On ne savait pas à qui il appartenait. Mais tu avais l'air de croire ce que disait la police, plus que ce que je disais. Tu es venu me chercher dans ma chambre, tu m'as giflé. Tu m'as traité de voleur et tu m'as emmené au commissariat. Tu avais honte. Tu me regardais comme si je t'avais trahi. Tu n'as rien dit dans la voiture. Mais quand nous nous sommes assis devant les policiers, dans leur bureau recouvert d'affiches incompréhensibles, tout de suite, tu t'es mis à me défendre avec une force que je n'avais jamais rencontrée, ni dans ta voix, ni dans ton regard. Tu leur disais que je n'aurais jamais volé un téléphone, que je l'avais trouvé, c'est tout. Tu disais que j'allais devenir un professeur, un médecin important, un ministre. Tu ne savais pas encore, mais qu'en tout cas, j'allais faire de grandes études et que je n'avais rien à voir avec les délinquants. Tu as dit que tu étais fière de moi. Tu as dit que tu n'avais jamais connu d'enfant aussi intelligent que moi. Je ne savais pas que tu pensais tout ça.
Que tu m'aimais.
Pourquoi est-ce que tu ne me l'avais jamais dit?
Plusieurs années après, quand j'ai fui le village et que je suis allé habiter à Paris, quand le soir dans les bars, je rencontrais des hommes et qu'ils me demandaient quelles étaient mes relations avec ma famille.
C'est une drôle de question, mais ils la posent.
Je leur répondais toujours que je détestais mon père. Ce n'était pas vrai. Je savais que je t'aimais, mais je ressentais le besoin de dire aux autres que je te détestais. Pourquoi ?
Est-ce qu'il est normal d'avoir honte d'aimer ?
Quand tu avais trop bu, tu baissais les yeux et tu me disais quand même que tu m'aimais. Que tu ne comprenais pas pourquoi le reste du temps tu étais si violent. Tu pleurais en m'avouant que tu ne savais pas comment interpréter ces forces qui te traversaient, qui te faisaient dire des choses que tu regrettais immédiatement après. Tu étais autant victime de la violence que tu exerçais que de celle que tu subissais.
Tu as pleuré quand les tours jumelles se sont effondrées.
Avant ma mère, tu as aimé une femme qui s'appelait Sylvie. Tu avais tatoué son nom toi-même sur ton bras avec de l'encre de Chine. Quand je te posais des questions sur elle, tu ne voulais pas répondre. Un ami m'a dit l'autre jour, parce que je lui parle de toi.
Ton père ne voulait pas raconter son passé parce que ce passé lui rappelait qu'il aurait pu devenir quelqu'un d'autre et qu'il ne l'est pas devenu.
Peut-être qu'il a raison. Ces fois où je montais dans la voiture avec toi pour t'accompagner, acheter des cigarettes, ou autre chose, mais surtout et souvent des cigarettes. Tu mettais dans le poste un disque piraté de Céline Dion. Tu avais écrit Céline au marqueur bleu dessus, tu lançais le disque et tu chantais de toutes tes forces. Tu connaissais toutes les paroles par cœur.
Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nu, les instants d'innocence. Quand on ne savait pas,
on ne change pas. Je chantais avec toi, Et je sais que c'est une image convenue, mais c'est comme si ces instants-là étaient les seuls où tu arrivais à me dire les choses que le reste du temps tu ne me disais pas.
Tu te frottais les mains avant de commencer à manger.
Quand j'achetais des bonbons à la boulangerie du village, tu en prenais un dans le paquet avec un petit air coupable et tu me disais « Ne le dis pas à ta mère ». Tout à coup, tu avais le même âge que moi.
Un jour, tu as donné mon jouet préféré, un jeu de société qui s'appelait « Docteur Maboule » au voisin. J'y jouais tous les jours, c'était mon jeu préféré et tu l'as donné, sans aucune raison. J'ai hurlé, je t'ai supplié. Toi, tu souriais et tu disais « C'est la vie ».
Un soir, dans le café du village, tu as dit devant tout le monde que tu aurais préféré avoir un autre fils que moi. Pendant plusieurs semaines, j'ai eu envie de mourir.
Je me rappelle l'année parce qu'il y avait encore dans la maison des décorations pour fêter le nouveau millénaire. Guirlandes, ampoules de toutes les couleurs, des dessins aussi seulement gribouillés que j'avais rapportés de l'école, avec écrit dessus en lettres d'or des vœux pour la nouvelle année et la nouvelle ère qui commençait.
Il n'y avait que toi et moi dans la cuisine. Je t'ai dit « Regarde papa, je sais imiter l'extraterrestre ». Et je t'ai fait une grimace avec mes doigts et avec ma langue. Je ne t'ai jamais vu rire autant. Tu n'arrivais pas à calmer ton rire, tu t'essoufflais. Les larmes de joie coulaient sur ton visage rougi. Rougi. J'avais arrêté ma grimace, mais tu continuais à rire. Tellement fort que j'ai fini par m'inquiéter, par avoir peur de ton rire qui ne s'arrêtait pas, qui semblait comme vouloir s'étirer et résonner jusqu'à la fin du monde. Je t'ai demandé pourquoi tu riais autant et tu as répondu, entre deux rires, « Toi, tu es un sacré gamin. Je ne sais pas comment j'ai réussi à en faire un comme toi. » Alors, j'ai décidé de rire avec toi. Nous avons ri tous les deux, en nous tenant le ventre, l'un à côté de l'autre, pendant longtemps. Longtemps.
Les problèmes ont commencé dans l'usine où tu travaillais.
Je l'ai raconté dans mon premier roman, En finir avec Eddie Bellegueule.
Un après-midi, nous avons reçu un appel de l'usine pour nous prévenir qu'un poids était tombé sur toi. Ton dos était broyé, écrasé. On nous a dit que tu ne pourrais plus marcher pendant plusieurs années. Plus marcher. Les premières semaines, tu es resté complètement au lit, sans bouger. Tu ne savais plus parler, tu ne pouvais plus que crier. C'était la douleur, elle te faisait te réveiller la nuit et crier. Ton corps ne pouvait plus se supporter lui-même. Tous tes mouvements et tes déplacements les plus minuscules réveillaient tes muscles ravagés. Tu prenais conscience de l'existence de ton corps dans la douleur, par elle. Et puis, la parole est revenue. Au début, c'était seulement pour demander de la nourriture et à boire. Et avec le temps, tu as recommencé à faire des phrases plus longues, à exprimer des désirs, des envies, des colères. La parole ne remplaçait pas la douleur. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Il faut dire les choses. La douleur n'a jamais disparu.
L'ennui a pris toute la place dans ta vie. Je te regardais et j'apprenais à voir que l'ennui est ce qui peut arriver de pire. Même dans les camps de concentration, on pouvait s'ennuyer. C'est étrange de le penser. Imra Kertész le dit. Charlotte Delbo le dit. Même dans les camps de concentration, même avec la faim, la soif, la mort, l'agonie pire que la mort, les crématoires, les chambres à gaz, les exécutions sommaires, les chiens toujours déjà prêts à vous déchiqueter les membres, le froid, la chaleur et la poussière qui entrent dans la bouche, la langue qui durcit comme un morceau de béton à l'intérieur de la bouche privée d'eau, le cerveau asséché qui se rétracte dans la boîte crânienne, le travail encore, les puces, les poux, la gale, la diarrhée, la soif encore. Malgré tout ça et tout ce que je n'ai pas dit, il y avait encore de la place pour l'ennui, l'attente de l'événement, celui qui ne viendra pas ou qui tarde trop à venir.
Tu te levais tôt le matin et tu allumais la télé en même temps que ta première cigarette. J'étais dans la chambre à côté. L'odeur du tabac et le bruit arrivaient jusqu'à moi. comme l'odeur et le bruit de ton être. Les gens que tu appelais tes copains venaient boire du pastis à la maison en fin d'après-midi. Tu regardais la télé avec eux, tu allais les voir de temps en temps, mais le plus souvent, à cause de tes douleurs au dos, à cause de ton dos broyé par l'usine, de ton dos broyé par la vie qu'on t'avait contraint à vivre, pas par ta vie, ce n'était pas ta vie à toi justement, tu ne l'as jamais vécue. Tu as vécu à côté de ta vie. À cause de tout ça, tu restais à la maison, et c'était plutôt eux qui venaient. Toi, tu ne pouvais plus bouger. Ton corps te faisait trop mal.
En mars 2006, le gouvernement de Jacques Chirac, président de la France pendant 12 ans, et son ministre de la Santé, Xavier Bertrand, ont annoncé que des dizaines de médicaments ne seraient plus remboursés par l'État, dont en grande partie des médicaments contre les troubles digestifs. Comme tu devais rester allongé toute la journée depuis l'accident et que tu avais une mauvaise alimentation, les problèmes de digestion étaient constants pour toi. Acheter des médicaments pour les réguler devenait de plus en plus difficile. Jacques Chirac et Xavier Bertrand te détruisaient les intestins.
Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais ces noms dans une biographie ?
En 2007, Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle, mène une campagne contre celles et ceux qui appellent les assistés et qui, selon lui, volent l'argent de la société française parce qu'ils ne travaillent pas. Il déclare
« Le travailleur voit l'assisté s'en tirer mieux que lui pour boucler ses fins de mois sans rien faire. »
Il te faisait comprendre que si tu ne travaillais pas, tu étais en trop dans le monde, un voleur, un surnuméraire, une bouche inutile, aurait dit Simone de Beauvoir. Il ne te connaît pas. Il n'a pas le droit de penser ça. Il ne te connaît pas. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus.
En 2009, le gouvernement de Nicolas Sarkozy et son complice, Martin Hirsch, remplacent le RMI, un revenu minimum versé par l'État français aux personnes sans travail, par le RSA. Tu touchais le RMI depuis que tu ne pouvais plus travailler. Le passage du RMI au RSA visait à favoriser le retour à l'emploi, comme le disait ce gouvernement. La vérité, c'est que dorénavant, tu étais harcelé par l'État pour reprendre le travail, malgré ta santé désastreuse, malgré ce que l'usine t'avait fait. Si tu n'acceptais pas le travail qu'on te proposait, ou plutôt qu'on t'imposait, tu allais perdre ton droit aux aides sociales. On ne te proposait que des emplois à mi-temps, épuisants, physiques, dans la grande ville à 40 km de chez nous. Payer l'essence pour aller faire l'aller-retour tous les jours t'aurait coûté 300 euros par mois. Au bout d'un certain temps, pourtant, tu as été obligé d'accepter un travail de balayeur dans une autre ville, pour 700 euros par mois, penché toute la journée à ramasser les ordures des autres. Penché alors que ton dos était détruit. Nicolas Sarkozy et Martin Hirsch te broyaient le dos.
Tu avais conscience que pour toi, la politique était une question de vie ou de mort.
Un jour, en automne, la prime de rentrée scolaire qui était versée tous les ans aux familles pour les aider à acheter des fournitures, des cahiers, des cartables, avait été augmentée de presque 100 euros. Tu étais fou de joie. Tu avais crié dans le salon « On part à la mer !» Et on était partis à 6 dans notre voiture de 5. J'étais montée dans le coffre, comme un otage dans un film d'espionnage. C'était ce que je préférais. Toute la journée avait été une fête.
Chez ceux qui ont tout, je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique. Parce que pour eux, la politique ne change presque rien. Je m'en suis rendu compte quand je suis allée vivre à Paris, loin de toi. Les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de gauche. Ils peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite. Mais un gouvernement ne leur cause jamais de problème de digestion. Un gouvernement ne leur broie jamais le dos. Un gouvernement ne les pousse jamais vers la mer. La politique ne change pas leur vie, ou si peu. Ça aussi, c'est étrange. C'est eux qui font la politique, alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie. Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique. Une manière de se penser. Une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c'était vivre ou mourir. Thank you.
2016, sous la présidence de François Hollande, Myriam El Khomri, la ministre du Travail soutenue par le Premier ministre Manuel Valls, fait adopter la loi dite « loi travail ». Cette loi facilite les licenciements et permet aux entreprises de faire travailler les salariés plusieurs heures de plus par semaine, en plus de ce qu'ils travaillaient déjà.
L'entreprise pour laquelle tu balayais les rues pouvait te demander de balayer encore plus, de te pencher encore plus longtemps chaque semaine. Ton état de santé aujourd'hui, tes difficultés à te déplacer, tes difficultés à respirer, ton incapacité à vivre sans l'assistance d'une machine, viennent en grande partie d'une vie à faire des mouvements automatiques à l'usine, puis à te pencher 8 heures de suite tous les jours pour balayer les rues, pour balayer les ordures des autres. Hollande, Valls et El Khomri t'ont asphyxié.
Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais ces noms ?
27 mai 2017. Dans une ville de France, deux syndicalistes, ils portent tous les deux un t-shirt. Deux hommes interpellent au milieu d'une rue le président français Emmanuel Macron. Ils sont en colère. Leur manière de parler le fait comprendre. Ils ont l'air de souffrir aussi. Emmanuel Macron leur répond, la voix pleine de mépris.
Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
Il renvoie ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un costume à la honte, à l'inutilité, à la fainéantise. Ils actualisent la frontière violente entre les porteurs de costumes et les porteurs de t-shirts, les dominés et les dominants, ceux qui ont l'argent et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Ce genre d'humiliation, venue des dominants, te fait ployer le dos encore plus. Septembre 2017. Emmanuel Macron accuse les fainéants qui, en France, selon lui, empêchent les réformes.
Tu sais, depuis toujours que ce mot est réservé aux gens comme toi, à ceux qui n'ont pas pu ou ne peuvent pas travailler parce qu'ils vivent trop loin des grandes villes, qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils ont été chassés trop tôt du système scolaire, sans diplôme, à ceux qui ne peuvent plus travailler parce que la vie à l'usine leur a broyé le dos. On ne dit jamais fainéant pour nommer un patron qui reste toute la journée assis dans un bureau à donner des ordres aux autres. On ne le dit jamais. Quand j'étais petit, tu répétais obsessionnellement « je ne suis pas un fainéant » parce que tu savais que cette insulte planait au-dessus de toi comme un spectre que tu voulais exorciser.
Il n'y a pas de fierté sans honte. Tu étais fier de ne pas être un fainéant parce que tu avais honte de faire partie de ceux qui pouvaient être désignés par ce mot. Le mot fainéant est pour toi une menace, une humiliation. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus.
Ces noms que je prononce depuis tout à l'heure. Peut-être que ceux qui me liront ou m'entendront ne les connaissent pas. Peut-être qu'ils les ont déjà oubliés ou qui ne les ont jamais entendus. Mais c'est justement pour ça que je veux les prononcer. Parce qu'il y a des meurtriers qui ne se sont jamais nommés. Qui ne sont jamais nommés pour les meurtres qu'ils ont commis. Il y a des meurtriers qui échappent à la honte grâce à l'anonymat ou grâce à l'oubli. J'ai peur parce que je sais que le monde agit dans l'ombre et dans la nuit. Je refuse qu'il soit oublié. Je veux qu'il soit connu maintenant et pour toujours, partout. Au Laos, en Sibérie et en Chine, au Congo et en Amérique, partout à travers les océans, à l'intérieur de tous les continents, au-delà de toutes les frontières. Est-ce que tout finit toujours par être oublié? Je veux que ces noms deviennent aussi inoubliables qu'Adolphe Thiers, que le Richard III de Shakespeare ou que Jacques l'Éventreur. Je veux faire entrer leurs noms dans l'histoire par vengeance.
Août 2017. Le gouvernement d'Emmanuel Macron retire 5 euros par mois aux Français les plus précaires. Il retire 5 euros par mois sur les aides sociales qui permettent aux plus pauvres en France de se loger, de payer un loyer. Le même jour, ou presque, peu importe, il annonce une baisse des impôts pour les personnes les plus riches de France. Il pense que les pauvres sont trop riches, que les riches ne sont pas assez riches. Son gouvernement précise que 5 euros, ce n'est rien. Ils ne savent pas. Ils prononcent ces phrases criminelles parce qu'ils ne savent pas. Emmanuel Macron t'enlève la nourriture de la bouche.
Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac. L'histoire de ta souffrance porte des noms. L'histoire de ta vie est l'histoire de ces personnes qui se sont succédées pour t'abattre. L'histoire de ton corps est l'histoire de ces noms qui se sont succédés pour te détruire. L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. Tu as changé ces dernières années. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Nous nous sommes parlé longtemps. Nous nous sommes expliqués. Je t'ai reproché la personne que tu as été quand j'étais enfant. Ta dureté, ton silence. Ces scènes que j'énumère depuis tout à l'heure. Et tu m'as écouté. Et je t'ai écouté. Toi qui toute ta vie a répété que le problème de la France venait des étrangers et des homosexuels, tu critiques maintenant le racisme de la France. Tu me demandes de te parler de l'homme que j'aime. Tu achètes les livres que je publie, tu les offres aux gens autour de toi. Tu as changé du jour au lendemain. Un de mes amis dit que ce sont les enfants qui transforment leurs parents, et pas le contraire. Mais qu'ils ont fait de ton corps ne te donne pas la possibilité de découvrir la personne que tu es devenue.
Mais c'est vrai que ce que j'essaie de montrer dans les livres, vous savez, il y a une idée très belle de Pierre Bourdieu qui dit « Quand on appartient aux classes populaires, on a tout qui nous est enlevé. On a l'accès à la culture qui est enlevé, l'argent qui est enlevé, encore plus aujourd'hui avec la politique ultra-violente, anti-classe populaire de Macron. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui déteste les pauvres, qui est une sorte de militant contre les pauvres. »
Et là, on revient à la politique et on revient à la polémique et à des propos qui, encore une fois, peuvent choquer.
Pour moi, c'est pas de la polémique, c'est tout simplement la vérité, c'est tout simplement de cette manière-là que les choses se passent.
Mais parce que convenez que tout le monde ne soit pas forcément d'accord avec ce que vous dites là, qui sont des mots, encore une fois, qui sont violents, qui sont très durs.
Oui, mais qu'est-ce qui est violent, c'est de détruire le corps d'une personne ou d'accuser une personne de détruire un corps? Alors peut-être que c'est vrai, ici, à Europe 1, c'est des journalistes, c'est des gens de bourgeois, et donc on n'imagine pas à quel point la politique a un effet sur le corps, mais vous parliez d'intimité.
Mais des gens qui sont conscients aussi, rassurez-vous, de ce qui se passe à l'extérieur de ce studio. Hein.
Oui, oui, mais c'est pas pareil si on le reçoit
bien
ou si
évidemment.
On le reçoit pas.
Bien évidemment, mais il y a une question que moi je me posais en lisant votre roman, c'est que vous dites très clairement que vous ne concevez pas qu'on puisse s'intéresser aux problèmes, et vous le disiez là à l'instant, aux problèmes petits bourgeois, aux problèmes de gens qui n'ont pas de problème finalement. En ayant, comme le disait tout à l'heure Virginie, en ayant changé d'environnement, est-ce que vous allez vous aussi finalement finir par vous intéresser aussi à ces problèmes-là?
Non, mais vous savez, la question des problèmes, parce qu'il n'y a pas que la pauvreté, il y a la transphobie, il y a l'homophobie, il y a la domination masculine, donc il y a différentes manières d'en parler. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'écart entre la politique et l'intime pour moi. Et c'est ça qui est au cœur du livre « Qui a tué mon père ?» C'est qu'une réforme de Macron, une réforme de Sarkozy, c'est quelque chose d'aussi intime, d'aussi corporel que n'importe quel souvenir d'enfance.
Et qui peut avoir des conséquences sur... sur chacune des personnes qui sont touchées.
Voilà, et c'est ça que j'ai voulu montrer avec ce livre.
Le mois dernier, quand je suis venu te voir, avant que je parte, tu m'as demandé « Tu fais encore de la politique ?» Le mot « encore » faisait référence à ma première année au lycée, quand j'avais adhéré à un parti d'extrême gauche et qu'on s'était disputé parce que tu pensais que j'allais avoir des ennuis avec la justice, à force de participer à des manifestations illégales. Je t'ai dit « Oui, de plus en plus ». Tu as laissé passer 3 ou 4 secondes, tu m'as regardé, et enfin tu as dit « Tu as raison. Tu as raison. Je crois qu'il faudrait une bonne révolution. »
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoules ou bien nègres. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyous stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans tri pour ce pays, l'affiche et couleur sang. Et Manouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous adhérer des luttes. Donc nous, on Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui fait une choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica, codépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché la skate, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pâche de Belleville viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Toujours sur Radio Canu avec le Théâtre de la Gamelle, et vous venez d'écouter la suite et la fin du texte d'Édouard Louis, Qui a tué mon père, et la lecture a été faite, orchestrée par Lindsay, Jean et Amandine.
Et Charlotte, bien sûr, puisqu'on a entendu ta voix. Merci Charlotte pour la proposition de ce texte, pour cette découverte et à la fois de cet auteur et de ce texte. Moi qui voilà, il m'a beaucoup touchée parce que je trouve que c'est un très beau cri d'amour en même temps à son père et en même temps à la classe populaire. C'est un cri d'amour et en même temps de colère, justement sur le lien entre la politique et l'intime. Je trouve qu'il dit bien les choses. Je trouve ça assez fort parce que c'est vrai que bah oui, la politique est liée à notre intime et à notre quotidien. En fait, il en parle très bien et je trouve que ça, l'extrait que tu as passé, donc c'est une interview d'Edouard Louis, c'est ça, sur Europe 1, je le trouve d'autant plus plus probant en fait. C'est voilà, puis voilà, je trouve ça assez fort et puis dans le lien avec ce père, c'est à la fois un cri d'amour et en même temps pas un règlement de compte, mais c'est dualité qu'on a avec ses parents aussi, selon les milieux sociaux d'où on vient, et surtout quand on vient des classes populaires, il y a une violence de toute façon au quotidien qui se vit, parce que on n'est pas sûr de remplir le frigo, parce qu'on part pas en vacances, parce que on achète très peu de vêtements, parce que on change jamais de cartable, parce que, enfin voilà, d'un point de vue d'un enfant et des parents, il y a quelque chose de très violent. Et quand sur Europe 1, il lui parle de la violence, on entend souvent, et c'est comme pour le mouvement des Gilets jaunes, on entend souvent que c'est violent. Les gens sont choqués de la violence qu'il puisse y avoir. Mais en fait, au quotidien, c'est violent à vivre toutes ces situations-là. La précarité, c'est violent. Quand on est au chômage et qu'on passe... que tout le monde passe son temps à montrer du doigt les chômeurs et à dire mais regardez comme c'est honteux, c'est des feignants, ils sont bons à rien, alors qu'en fait le chômage, il est pas, on sait très bien par qui il est créé, et donc du coup être dans ces situations là c'est violent, c'est douloureux, et que forcément à un moment donné, quand enfin cette classe populaire prend les devants et décide de crier, de faire cette fameuse un peu révolution qu'appelle dont le père est conscient, eh ben, ça peut paraître violent, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est qu'une réponse à la violence quotidienne.
Oui, d'ailleurs, il y avait j'ai oublié le nom, mais un évêque brésilien, un évêque peut dire parfois des bonnes choses, qui classifiait la violence. Il y avait donc la première violence, la violence sociale qu'on pouvait subir au quotidien. Ensuite, il y avait la violence d'une révolution, de personnes qui vont dans la rue pour lutter et protester, pour crier. Et enfin, il y avait la violence gouvernementale, la violence des flics qui viennent réprimer cette violence-là.
Non, mais tout à fait.
Et c'est vrai que le texte, il est encore plus d'actualité. Il faut vraiment se renseigner sur ce qui est en train de se passer, rajouter un nom au texte d'Edouard Louis, mettant c'est Muriel Pénicaud, cette longue liste macabre.
Pour la précarité.
Donc, pour la précarité et cette réforme de l'assurance chômage. Donc, vraiment, moi, je vous engage déjà... la base, c'est de savoir cette réforme, elle est catastrophique. C'est-à-dire que si vous regardez dans le détail, il y a deux points. Le premier, c'est qu'avant, il suffisait de travailler 4 mois sur 28 pour avoir des indemnités. Donc c'était un rapport de 1 sur 7. Maintenant, c'est 6 mois sur 24. C'est un rapport de 1 sur 4. Pour toutes les personnes qui ont été confrontées à des périodes d'alternance entre travail et chômage, c'est un massacre, c'est-à-dire que c'est des centaines de milliers de personnes qui vont être radiées de l'assurance chômage. Et le deuxième point dont on parle peu, donc moi je m'inspire d'un post de Samuel Churin sur Facebook, donc je vous engage à lire ce post de Samuel Churin, c'est l'indemnité journalière qui avant était calculée sur les jours travaillés. Donc si vous travaillez, je sais pas, je dis n'importe quoi, un jour sur deux au SMIC, votre indemnité journalière d'assurance chômage est calculée sur le SMIC. Maintenant, c'est sur le salaire moyen que vous avez touché pendant le mois. C'est-à-dire que si vous avez travaillé un jour sur deux, votre indemnité journalière sera calculée sur une base de 600 euros. Ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir des personnes qui vont avoir en 2020 une baisse de l'assurance chômage de plusieurs centaines d'euros par mois. Donc c'est un massacre. Donc vraiment, vraiment, je vous engage, Radio Canus, c'est des personnes qui sont plutôt au courant, mais déjà dans le détail précis, je pense que les gens se rendent pas forcément compte du massacre que ça représente. Voilà, il y a une étude qui est sortie en 2016, c'est, je crois, 14 000 personnes qui meurent des suites du chômage en France. Voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est 14 000 décès sont liés à la précarité, liés au chômage, donc suicide, alcoolisme, maladie. Toutes les conséquences du chômage, et en particulier du chômage longue durée, c'est des morts. Donc voilà. Donc voilà, c'est un texte d'autant plus d'actualité.
Complètement. Et d'ailleurs, il a écrit en quelle année, ce texte? Tu sais
Là, 2017.
Ah oui, donc il est...
C'est vraiment tout récent. Et en fait, pour expliquer, c'était une commande d'écriture de Stanislas Nordet, donc qui est du TNS à Strasbourg, du Théâtre National de Strasbourg, et donc ça a été mis en scène. Donc je sais pas ce que ça donne sur scène, mais peut-être que ça va tourner, peut-être que ça va être reçu dans nos théâtres lyonnais.
à voir.
Et du coup, l'interview, on peut la trouver en entière sur.
Oui, c'est sur.
Sur Europe 1.
Ouais, alors je suis pas allée sur Europe 1, je suis allée sur YouTube. J'ai fait. Il y a beaucoup d'entretiens super intéressants, notamment avec Mediapart, qui est un autre média beaucoup plus intéressant qu'Europe 1.
Ouais.
Donc voilà, je vous invite à taper son nom sur les barres de recherche.
Non, bah voilà, merci.
Merci, oui.
Peut-on passer un petit point agenda?
Oui, tu commences ou?
Alors oui, eh ben, on nous a chargé de parler d'un festival, c'est le Fest Diff, qui aura lieu les 5 et 6 juillet, donc à Villeurbanne. Alors je vais lire leur présentation. Donc c'est proposé par l'association La Miette. C'est une 7e édition qui met à l'honneur l'engagement de plus de 60 partenaires qui défendent la mixité sociale, le mieux vivre ensemble, l'interculturalité et la conviction d'une société riche de ses différents tout en favorisant l'inclusion de toutes et de tous. Donc le Fest Diff, c'est une invitation à la rencontre, au partage et à l'ouverture aux autres, un temps de convivialité festive sur les thèmes de la différence et de la diversité, appuyé par un nouveau thème cette année, donc c'est les défis, qu'ils soient individuels ou collectifs. Alors concrètement, au niveau de la programmation, le 5 juillet au soir, au CCVA de Villeurbanne, il y aura une pièce de théâtre, L'homme qui plantait des arbres de Jean Junot, par la compagnie Valdé. Et juste en amont, on aura un concert par le L'été musical. Et le 6 juillet, de 13h à 22h, sera organisée une journée festive. Alors, rassemblons des spectacles, des expériences sensorielles, des activités manuelles, des expositions, des activités sportives, tournois de pétanque, un pôle bien-être avec massage et coin repos, des flash mobs et balfog, etc., etc., etc. Et ça aura lieu au Parc des Droits de l'Homme de Villeurbanne. Voilà.
Alors, au Festival des Bravos de la Nuit, la compagnie Manger Tais-toi va refaire son spectacle donc du 24 au 30 août à 20h, ce sera à Pélussin, dans le 42.
Profit dans les monts du Pierrat.
Voilà, profit sur ordonnance, je ne sais pas si je l'ai dit, sur la surprescription médicale.
Émission que vous pourrez entendre sur le blog de Radio Canu, puisqu'il y en avait eu une lecture.
Tout à fait.
Et j'aurai aussi la chance de jouer au Bravo de la Nuit, 24 au 30 août. C'est une pièce de Brecht, celui qui dit oui, celui qui dit non, l'importance d'être d'accord. C'est des pièces didactiques par la compagnie Les Babilleurs, donc à 22h. Donc vous pouvez voir les deux pièces. Profit sur ordonnance à 20h et celui qui dit oui à 22h.
Ouais. Et puis l'été arrive avec son lot de festivals. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller au Festival d'Avignon, bien sûr, à Chalon dans la rue ou encore à Aurillac.
Ou tout simplement à Tout le monde dehors aussi, parce qu'il y a beaucoup de compagnies, c'est essentiellement des compagnies lyonnaises qui ont l'occasion de jouer au Festival de Tout le monde dehors. Voilà, il y a une grosse programmation, c'est tout l'été, comme vous le savez, donc n'hésitez pas à y aller.
Et puis en ce moment, il y a le Nidpool qui organise un grand festival à l'amphithéâtre des Trois Gaules. Donc n'hésitez pas à aller vérifier leur programmation sur leur site internet. Donc c'est le Nidpool. Et puis c'était la dernière émission de la saison 2018-2019 du Théâtre de la Gamelle. Nous vous souhaitons donc un très 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 bel été. Amandine, un dernier petit mot pour la fin?
Eh ben, à la rentrée, on reviendra.
Et sur son char.
Amateur.
Propagande. Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Clin
noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.